Midi 1. Mariam, Matin Famille.
Et nous sommes toujours ensemble et en direct et on prend la direction de Casablanca à présent. Alors je vous le disais tout à l'heure, on fait le point aujourd'hui également sur la cyclothymie qui est souvent considérée comme étant une version assez soft de la bipolarité. Quelle différence donc ? On tente de comprendre ce trouble de l'humeur qui est souvent considéré comme étant incontrôlable, voire même excessif. Et pour en parler, il est avec nous en direct depuis Casablanca, Dr Hartmann Lorabi. Bonjour.
Bonjour Mariam, bonjour à toute l'équipe et bien sûr bonjour aux auditrices et auditeurs de Midi 1. Ravi d'être avec vous.
Et nous sommes ravis de vous recevoir comme tous les jeudis matin. Alors vous êtes spécialiste en psychiatrie, vous êtes également secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. Alors d'abord, je le disais, donc la cyclothymie, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Comment peut-on définir donc ce trouble de l'humeur?
Alors, vous avez énoncé une notion super importante, vous avez dit incontrôlable. Hein, l'humeur, on ne la contrôle pas. L'humeur, c'est quelque chose qui est une fonction un petit peu quasi automatique au niveau de notre mental, de notre psychique et de notre cerveau. Et donc, c'est vrai que vous avez aussi pointé la notion de variation, hein, de variation un peu soft, un peu légère. Vous avez absolument raison, parce que en fait la cyclothymie, dans sa définition, ça correspond à une alternance de phases de légère euphorie et de légère dépression, et le mot léger est très important, avec la présence d'une humeur qu'on va qualifier d'anormale, c'est-à-dire soit légèrement euphorique, soit légèrement dépressive, pendant au moins la moitié du temps, pendant une période sur plus de 2 ans. Donc il y a une dimension de chronicité, ça c'est très important, donc ce n'est pas une phase qui correspond à une phase de stress, d'adaptation, qui va être limitée par exemple à 3 mois ou 6 mois ou 1 an, mais on parle vraiment d'une modalité sur plusieurs années en réalité. Et concrètement, à quoi ça ressemble, entre guillemets, c'est des gens qu'on... Il y a beaucoup de gens qui vont probablement un peu se reconnaître, mais c'est des gens qui vont très souvent avoir des périodes de grand rendement, de grande productivité au niveau de leur travail, au niveau de leur vie sociale, au niveau de leur rythme veille-sommeil, c'est-à-dire avec un petit manque de sommeil qui va être présent pendant plusieurs jours d'affilée, et une tendance à un peu à l'euphorie, etc. Et puis, assez rapidement, la semaine d'après, peut-être, qui vont passer par 3 ou 4 jours où ils vont être un peu raplapla, entre guillemets, un peu fatigués, un peu ralentis, un peu dans la dépression. C'est vraiment à ça que ça correspond. Et vous le disiez très bien dans votre introduction, que c'est quelque chose qui s'apparente au trouble bipolaire en mode light. Pourquoi en mode light ? Parce que déjà, en termes de consultation, il y a peu de gens qui vont se présenter avec ce genre de plainte, parce que ça reste des plaintes légères, parce que la plupart du temps, cette cyclothymie ne va pas impacter de manière significative la vie de la personne, qu'elle soit professionnelle, familiale, sociale ou autre. Et donc à partir de ce moment-là, déjà c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à donner par exemple une idée de la prévalence de ce trouble dans la population, parce qu'il y a probablement des gens qui vont vivre toute leur vie avec une cyclothymie et qui n'auront jamais le besoin qui n'éprouveront jamais le besoin de consulter. Oui. En revanche, vous avez mis le lien entre la cyclothymie et le trouble bipolaire, et c'est vrai que dans la réalité des choses, quelquefois, des personnes qui sont diagnostiquées cyclothymiques vont déclarer une authentique maladie bipolaire par la suite. Alors, cela a du sens, parce que comme vous le disiez, ça fait partie des grandes familles des troubles de l'humeur. Qu'est-ce que ça veut dire, des troubles de l'humeur ? Les troubles de l'humeur, c'est toutes les maladies où les fonctions automatiques de régulation de l'humeur sont un peu altérées, et donc on va voir l'apparition de problèmes d'humeur, soit vers un versant dépressif, soit vers un versant d'euphorie et d'excitation, de manière, je dirais, donc on va voir l'apparition de ce genre de symptômes de manière un peu spontanée, sans que ce soit forcément en réaction à un facteur de stress, etc., etc. Ça, la grande famille des troubles de l'humeur et la cyclothymie, effectivement, en fait partie.
D'accord. Alors, quelles peuvent en être les causes, docteur Lorabi ?
Les causes, elles sont multidimensionnelles. Il faut d'abord savoir que ce sont les troubles de l'humeur, ce sont des maladies, dont la cyclothymie, sont des maladies qui ont une forte composante familiale, hein, un peu à l'image du diabète ou des maladies du cholestérol, on va retrouver une agrégation familiale. Donc à partir du moment où on a des personnes dans notre famille qui ont des troubles de l'humeur, ça peut être un oncle, des cousins, quelquefois nos parents ou dans notre fratrie, oui, on va parler à ce moment-là d'une certaine susceptibilité de développer des troubles de l'humeur. Après, il y a d'autres types de facteurs, et notamment en termes, je dirais, de d'hygiène de vie. C'est-à-dire que assez souvent, on va remarquer que les personnes qui ont des troubles de l'humeur se retrouvent à consommer des substances psychoactives de manière un peu illicite. Alors, il y a un grand débat actuellement sur est-ce que c'est la cause ou la conséquence, hein, du trouble de l'humeur. Oui. C'est-à-dire, voilà, on cherche à se soulager avec ce qu'on a sous la main. Il y a un grand débat, mais en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude, c'est que la consommation de ces substances chez quelqu'un qui a ce diagnostic est hautement susceptible de déclencher des épisodes de gravité, enfin d'une plus grande gravité. Hein, sachant que, encore une fois, quand on parle de cyclothymie, on parle de choses extrêmement légères qui demandent assez rarement des soins en consultation, etc. et très 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 rarement en hospitalisation. Parce que dès qu'on parle d'épisodes d'excitation qui va nécessiter l'hospitalisation, on sort un peu de la définition de la cyclothymie. On va parler à ce moment-là de troubles bipolaires.
Alors, quelles seraient les répercussions, j'allais dire, de ces troubles au quotidien, tout simplement ?
Alors, super, c'est une excellente question, parce que les répercussions, elles vont se faire sentir principalement sur le plan professionnel, parce qu'on peut imaginer que quand il y a des variations comme ça dans le temps, on va avoir des problèmes de productivité, des problèmes de rendement, quelquefois même des problèmes d'assiduité au travail, parce que quand il y a des phases un peu dépressives, eh ben on est beaucoup plus ralenti et fatigué le matin, on est plus susceptible d'être en retard, on peut imaginer que ça va créer des problèmes. Et un autre grand type de problème souvent pointé du doigt, c'est les problèmes relationnels, hein, que ce soit avec notre entourage propre, proche, familial, ou même avec notre entourage amical. Assez souvent, du fait des variations, notre comportement peut être marqué soit par des excès, c'est-à-dire qu'on va être taxé de quelqu'un de fatigant, entre guillemets, ou alors par des manquements. Par exemple, quand on est soit dans une phase de dépression, soit dans une phase d'euphorie, on a souvent tendance à prendre les choses un peu plus à la légère. Et donc, sur le plan social, sur le plan relationnel, ça impacte forcément. Après, la sévérité de l'impact va dépendre de la sévérité de ces variations et de la rapidité de ces variations. Et forcément, il y a une proportion non négligeable de personnes qui, à ce moment-là, vont devoir consulter et être prises en charge.
Alors, en termes de traitement, justement, on y arrive. Cette prise en charge, comment ça se passe, docteur Atman Lorabi ? Je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie.
La prise en charge, elle a à peu près trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension un peu médicamenteuse, entre guillemets. Et là, je parle de gens qui ont un impact significatif, un impact lourd sur leur vie, sur leur travail, sur leur famille. Oui, à ce moment-là, on peut proposer des thérapeutiques médicamenteuses qui vont principalement être des stabilisateurs de l'humeur. Hein, la deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation. Un peu comme je vous ai dit par rapport aux substances psychoactives et aux excès et à l'hygiène de vie de manière générale, eh ben il y a, on va dire, un programme d'éducation à la santé, à la bonne santé, parce que quand on a cette susceptibilité, cette cyclothymie, cette susceptibilité aux troubles de l'humeur, les questions par rapport à la gestion du stress, la pratique du sport régulière, l'histoire de la maîtrise, ou plutôt du respect du temps de sommeil, le fait de ne pas veiller, le fait de dormir et se réveiller à heures plus ou moins fixes, y compris les problématiques par rapport à la prise de repas. En tout cas, toute l'hygiène de vie est extrêmement importante dans le maintien d'un état, ce qu'on appelle d'euthymie, c'est-à-dire une humeur normale, qui soit ni vers le versant euphorique, ni vers le versant dépressif.
Et assez enfin, constante aussi, j'imagine.
Oui, ouais. Absolument, absolument. C'est une nécessité, je dirais, pendant toute la vie de l'individu. Et enfin, il y a une troisième dimension, mais qui va beaucoup plus être axée sur les problématiques de la personne maintenant, ici et maintenant, parce que justement, le fait d'avoir des problèmes, des sources de stress qui s'imposent à nous au quotidien et qu'on a du mal à régler, qu'on a du mal à gérer, eh ben, c'est ce qu'on appelle un facteur stress. Et un facteur stress, ça peut déclencher n'importe quel type de maladie, et a fortiori, quand il y a cette cyclothymie, donc ça peut déclencher un épisode, ça peut déclencher un passage, je dirais, à une maladie plus sérieuse comme le trouble bipolaire. Donc la nécessité aussi de travailler en psychothérapie sur les stress du quotidien et surtout les stress quelquefois qu'on s'inflige à nous-mêmes, c'est aussi une part très importante du traitement, en plus de l'hygiène de vie donc et de la psychoéducation, et en plus d'un éventuel traitement médicamenteux.
Docteur Atman Lorabi, je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie, vous êtes également secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur Médien. C'est un entretien réécoutable sur notre site médien.com. Restez avec nous. On revient dans quelques minutes.